Donc, osons, chers amis, la lecture des différentes portions, et premièrement dans le livre de l'Exode, au chapitre 27. Chapitre 27 du livre de l'Exode, au verset 9e. Et tu feras le parvis du tabernacle pour le côté du midi vers le sud, des tentures de fin coton retors pour le parvis, de 100 coudées de longueur pour un côté, et ses 20 piliers, et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et de même pour le côté nord, dans la longueur, tu feras des tentures de 100 coudées en longueur et ses 20 piliers et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et pour la largeur du parvis du côté de l'occident, tu feras 50 coudées de tenture, leurs 10 piliers et leurs 10 bases. Et la largeur du parvis du côté de l'Orient vers le Levant sera de 50 coudées. Tu feras pour l'un des côtés 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases. Et pour l'autre côté 15 coudées de tenture, leurs 3 piliers et leurs 3 bases. Et pour la porte du parvis, un rideau de 20 coudées, de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur, ses 4 piliers et leurs 4 bases. Dans le chapitre précédent, chapitre 26e, au verset 15e, et tu feras les ais pour le tabernacle. Ils seront de bois de sittim placés debout. La longueur d'un ais sera de 10 coudées et la largeur d'un ais d'une coudée et demie. Il y aura 2 tenons à un aile, en façon d'échelon, l'un répondant à l'autre. Tu feras de même pour tous les ais du tabernacle. Et tu feras les ais pour le tabernacle, 20 ais pour le côté du midi vers le sud. Et tu feras 40 bases d'argent, et sous les 20 ais, 2 bases sous un aile, pour ces 2 tenons. Et 2 bases sous un ais pour ces 2 tenons. Et pour l'autre côté du tabernacle, du côté du nord, 20 ais, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous un ais, et 2 bases sous un ais. Et pour le fond du tabernacle, vers l'occident, tu feras 6 ais. Et tu feras 2 ais pour les angles du tabernacle, au fond. Ils seront joints par le bas et parfaitement unis ensemble par le haut dans un anneau. Il en sera de même pour les deux. Ils seront aux deux angles, et il y aura 8 ais et leur base d'argent. 16 bases, 2 bases sous un ais et 2 bases sous un ais. Un peu plus loin, au verset 31. Et tu feras un voile de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors. On le fera d'ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu le mettras sur 4 piliers de bois de sittim, plaqués d'or, et leurs crochets seront d'or. Ils seront sur 4 bases d'argent. Verset 36. Et tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de bleu, et de pourpre et d'écarlate, et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur. Et tu feras pour le rideau 5 piliers de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or. Et leurs crochets seront d'or, et tu fondras pour eux 5 bases d'airain. Nous possédons par la grâce de Dieu une parole vivante, une parole permanente, qui ne passe pas, qui conserve donc son actualité et la permanence de son langage. Et le Seigneur lui-même invitait ses disciples à sortir les Écritures, qui rendent témoignage de lui. Et l'évocation des Écritures, lorsqu'il l'a dit, avait pour objet, bien sûr, l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'existait pas. Par ailleurs, se joignant aux disciples d'Emmaüs, il leur explique aussi les choses qui le concernaient en évoquant les Écritures, les livres de la parole de Dieu, donc aussi l'Ancien Testament. L'apôtre Paul souligne cette réalité en évoquant les types des circonstances, que les conditions, les circonstances qu'ont vécues le peuple terrestre de Dieu, nous disant qu'elles leur sont arrivées l'antique pour nous servir d'instruction, d'avertissement. Donc nous ne saurions négliger les pages les plus anciennes de la parole et leur lecture place devant nos âmes la mesure dans laquelle Christ et son œuvre constituent le fil conducteur de toute la parole. Les types sont très variés, nous le savons, différentes catégories, et toutes ces choses qui nous sont données, tout ce qui a été institué par l'Éternel pour son peuple terrestre, et notamment en ce qui concerne la première réalisation de la maison de Dieu, a un langage spirituel de la plus haute valeur. Et si les Israélites, jadis, accomplissant ce qui était ordonné, n'ont pas pu saisir ce que ces choses signifiaient, à la lumière du Nouveau Testament, et avec le secours du Saint-Esprit, il est accordé à la foi de tirer le plus grand profit de ces choses, bien sûr tout en veillant à ne pas laisser aller notre initiative ou la fantaisie de l'esprit humain, soumettant l'interprétation de ces choses à l'enseignement général de la parole. Et nous aimerions, avec le secours du Seigneur, souligner d'une manière plus particulière la place que l'Esprit de Dieu accorde à la mention des fondements, et cela principalement en rapport avec la maison de Dieu. Nous avons lu deux portions, la première du chapitre 27, place devant nous l'enceinte du tabernacle, le parvis, de quoi il était constitué, de cette tenture soutenue par des piliers qui étaient posés sur des bases, et des bases d'herbe. Et dans la deuxième portion, il s'agit de l'habitation elle-même, qui est constituée d'herbe, ou de pièces de bois, de sittim, de grandes dimensions, puisqu'elles avaient 75 cm de largeur et 5 mètres de haut, et qui étaient eux-mêmes enchâssés dans des doubles bases d'argent, des bases. Il y a donc des bases en ce qui concerne la réalisation de la maison de Dieu, la réalisation du propos divin qui était d'habiter avec l'homme, d'habiter au milieu d'un peuple, comme nous le disons au chapitre 29, verset 45. C'était pour cela que l'Éternel a mis à part un peuple pour habiter au milieu de lui. La première lecture faite donc met en évidence l'importance de cette enceinte constituée par des piliers qui ont à leur sommet une continuité d'argent, ces chapiteaux d'argent, ces crochets d'argent, ces baguettes d'argent qui relient les piliers les uns aux autres, donc une continuité d'argent. Il n'y a pas un centimètre sur tout le pourtour qui met l'argent au sommet. Et à la base, l'herbe. Nous savons par l'enseignement général de la parole que l'herbe nous parle de la justice de Dieu contre le péché. Non pas contre le pécheur, contre le péché. Alors que l'argent est une figure de la parole de Dieu, comme aussi une figure de la rédemption de l'œuvre de Christ. Entre ces deux éléments, il y a la tenture de fin coton retors, qui évoque d'une part l'humanité de Christ, qui fait séparation avec ce qui est à l'intérieur du désert et se trouve à l'extérieur. Il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour comprendre quelque chose de la signification de ces choses. C'était là le témoignage de Dieu, institué par l'Éternel lui-même, et dont la réalisation était conditionnée à une implicite obéissance à ce que l'Éternel avait ordonné. Si la nuée a pu entrer dans le tabernacle, au chapitre 40, c'est parce que tout avait été fait comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Déclaration que nous trouvons pas moins de 18 fois dans le dernier chapitre, entre les 39 et 40 du livre de l'Exode. Obéissance implicite, ce qui conditionne la présence divine. Séparation de ce monde, dont nous parle le parvis, et les tentures sont bien l'expression de cette différence entre ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. Et de l'extérieur, on ne pouvait pas voir ce qui se faisait à l'intérieur. À la base donc de l'airain, qui nous parle de la condamnation du péché. Au sommet, l'argent, l'œuvre de Christ, la rédemption. Et entre ces deux pôles, ces deux événements, ce qui préfigure la séparation de ce monde et ce qui conditionne également l'enceinte de la maison de Dieu, du domaine de Dieu. L'enceinte dans la cour, au sein de laquelle se trouvent les bénédictions divines. Y a-t-il un témoignage possible qui puisse résulter ou se manifester en dehors de la rédemption, de l'œuvre de Christ, de la parole de Dieu? Impossible. D'où la continuité, l'absence totale d'interruption de l'argent au sommet. Y a-t-il un témoignage possible sans que le péché soit condamné? Impossible aussi. D'où l'airain présent à la base de tous les piliers. Nous avons par de telles images qui sont confirmées par l'enseignement que nous donne le Nouveau Testament et qui nous en fournit l'éclairage. La conviction que dès le début, dès que se réalise cette maison de Dieu, qui revêt toujours les mêmes caractères essentiels, bien que la mesure des révélations diffère au cours des économies, il n'y a pas de réalisation de la maison de Dieu, il n'y a pas de possibilité d'entrer en relation avec Dieu s'il n'y a pas jugement du mal et du péché, s'il n'y a pas les effets bénis de l'œuvre de Christ, l'argent. Si nous considérons la portion précédente du chapitre 26e, il s'agit alors des jets qui étaient juxtaposés, tenus liés les uns aux autres par diverses traverses, et qui étaient donc de bois de sittim, ce bois imputrescible, qui était revêtu d'or, figure du racheté. Des rachetés liés ensemble. Nous n'avons bien sûr pas dans l'Ancien Testament des commentaires qui développent la pensée de l'unité du corps de Christ. Néanmoins, nous en voyons les germes. La pensée divine nous est déjà démontrée par ces êtres qui résultent de l'arbre jeté à terre, et pour obtenir un élément de cette largeur, il faut qu'il soit ouvert et scié jusqu'au cœur. Tel fut le cas d'un sol de Tarse, jeté à terre, atteint jusqu'à son être intérieur. Et c'est là le travail de la grâce de Dieu par sa parole, qui entre, comme le dit Hébreux 4, jusqu'aux jointures et aux moelles. Il n'y a rien qui soit caché à la parole de Dieu. Ce qui est le plus intimement lié, les jointures, ce qui est le plus profondément caché, la moelle, c'est jusque-là que pénètre la l'aiguille ou la pointe de l'épée de la parole, au centre de l'arbre. Et il en sortira un élément de sa maison. Mais il est revêtu d'or. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ces éléments de sa maison, cette habitation de Dieu par l'Esprit, moyennant l'opération de sa grâce, la nouvelle naissance, qui nous met au bénéfice de cette parure. Nous sommes revêtus de la justice divine de laquelle l'ordre est l'expression. Mais pourrions-nous nous tenir debout? Nous avons ces êtres qui, liés les uns aux autres, sont enchâssés dans deux bases d'argent. Figure donc l'argent de la rédemption de l'œuvre de Christ que sa parole nous fait connaître. Deux bases. Sous les pieux du parvis, il n'y avait qu'une base. Sous chacun des ailes, il y avait deux bases. de base de chaque un talent d'argent, nous le savons par le chapitre 38, ce qui constitue, si nous faisons le calcul, 4350 kilos d'argent, sans base avec celle du roi. Quelle solidité d'un fondement inébranlable qui repose par la grâce divine sur le sable de ce monde. Mais si la parole nous dit que ses ailes par deux tenons étaient solidement fixées, enchâssées dans ces doubles bases d'argent, n'avons-nous pas le corollaire de cette pensée, soit dans l'Épître aux Colossiens, soit dans celle aux Éphésiens, que nous est dit que nous sommes enracinés et édifiés en lui, que nous sommes fondés dans l'amour. Double base. Nous savons tous que l'œuvre du Seigneur accomplie sur la croix revêt de nombreux doubles caractères, doubles aspects. Il y a l'amour, d'une part, la justice et la sainteté satisfaite, d'autre part. Il y a la mort et la résurrection. Il y a la réconciliation acquise par l'œuvre de Christ, celle des personnes et celle des choses. Il y a le règlement de la question du péché, mais aussi l'expiation des péchés, de ceux qui le reçoivent. De nombreux doubles aspects de l'œuvre de la rédemption. Deux bases d'argent sous chacun des ailes. Et cet ensemble constitue donc la maison de Dieu. Et au fond, aux angles du fond du lieu très saint, de part et d'autre, des ailes doubles qui reposent sur le même fondement et qui sont parfaitement unies au sommet dans un amour. Plusieurs de nos frères ont considéré ces choses qui ont vu une expression des apôtres Paul et Pierre qui nous parle particulièrement de la maison de Dieu ayant travaillé sur le même fondement et étant unis ensemble. On peut dire en un Christ glorifié. Qui pourrait dire que la parole n'est pas inspirée? Lorsque nous voyons le soin que l'Esprit de Dieu apporte à des déclarations qui prennent une valeur et un langage beaucoup plus grand pour nous qui bénéficions de l'intégralité des révélations divines que ne pouvaient en bénéficier les Israélites d'alors. Mais ceci place devant nous cette réalité que Dieu avait devant lui, de son Fils, son œuvre, et les résultats bénis de cette œuvre, une habitation au milieu d'un peuple. Nous avons également lu un peu plus loin qu'il y avait le voile qui faisait séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile tricolore qui comportait les chérubins, le lieu très saint, était enveloppé de chérubins, aussi bien au pourtour, par les tapis qu'au sommet et au voile, et quatre piliers qui reposent, eux, sur quatre bases d'argent. Comme il y a quatre piliers ici, comme nous avons quatre sacrifices ou quatre classes de sacrifices, comme nous avons aussi quatre côtés aux autels, nous avons aussi quatre évangiles. Qui place devant nous, qui déploie devant le regard de la foi les gloires merveilleuses de Christ qui brillent dans son œuvre, dans sa personne et dans son œuvre. Car là encore, il y a le double aspect, les deux bases. Il y a la perfection de la victime et la perfection de l'œuvre. Il fallait une victime sans défaut et sans tâche pour accomplir une œuvre qui puisse satisfaire les saintes exigences. Ce voile qui faisait séparation, ce voile qui sera déchiré lorsque l'œuvre sera accomplie. C'est la première chose qui est arrivée. Lorsque le Seigneur a pu sceller son œuvre en disant « c'est accompli », le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le chemin des lieux saints est désormais ouvert. Et c'est cette voie rendue accessible, ce chemin pour la foi, ce chemin nouveau, ce chemin de vie, le chemin de l'amour et celui du sang, que la foi emprunte en pleine liberté, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, nous accordant d'entrer dans les lieux saints. Il repose sur quatre fondements d'argent. En quelque sorte, la parole de Dieu, ces bases d'argent, déploie devant nous, par ce voile, soutenu par ses crochets d'or, l'infini des beautés et des perfections de celui qui seul pouvait accomplir l'œuvre pour qu'il soit déchiré. À l'entrée, nous l'avons lu à la fin, à l'entrée de la tente, verset 36, un rideau de bleu, de pourpre et d'écarlate, de même couleur que le voile faisant séparation des deux saints, mais absence de chérubin. Et c'est à l'entrée que nous avons alors cinq piliers, non plus quatre, cinq piliers, et qui reposent sur des bases eux aussi, mais non pas d'argent, elles sont des reins. Ce sont les seules bases des reins dans le pourtour complet du tabernacle. Nous ne parlons pas du parvis, mais de la demeure. N'y a-t-il pas un langage bien éloquent et solennel tout à la fois par la présence de ces cinq piliers reposant sur des bases, le seuil du tabernacle, le seuil du sanctuaire, accessible à la faiblesse de l'homme, moyennant la foi, moyennant l'œuvre de Christ à l'autel saint, moyennant le passage et l'arrêt à la culture, mais un dernier appel du jugement de soi-même par ce seuil terrain, avant de franchir et de porter ses pas dans la présence divine dans le sanctuaire. Mais ces choses sont à la portée de la faiblesse même du sacrificateur, le chiffre 5 en témoigne. Ces bases qui ont une éloquence particulière et qui parlent à nos cœurs. Et n'aurions-nous que ces choses-là, combien nous rendraient, devraient nous rendre sensibles. D'une part, quant aux effets de la grâce de l'œuvre de Christ, aux immenses richesses de cette grâce dont le fleuve s'est ouvert, dont les écluses se sont ouvertes dès que l'œuvre a été accomplie et qui accorde aux rachetés, à la fois aux sacrificateurs, aux adorateurs, d'entrer en pleine liberté dans les lieux saints. Mais quelle sérénité aussi, en pensant à ce rappel du seuil terrain. Que chacun s'éprouve soi-même. Si nous allons un peu plus loin à la deuxième réalisation de la demeure, c'est-à-dire le temple de Salomon, nous lisons premièrement dans le deuxième livre des Chroniques, un court passage, 2 Chroniques, chapitre 3. Nous lisons au chapitre 3, donc, de 2 Chroniques, et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'aire dormant de Jébusien. Et commença de bâtir le second jour du second mois, en la quatrième année de son règne. Et c'est ici le fondement que Salomon posa pour bâtir la maison de Dieu. La longueur en coudées, d'après l'ancienne mesure, était de 60 coudées, et la largeur de 20 coudées. Et le portique qui était devant avait 20 coudées de longueur, selon la largeur de la maison. Et sa hauteur était de 120 coudées, et il recouvrit à l'intérieur d'or pur. Pour le dernier verset de ce chapitre 3, verset 17, et il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche, et il appela le nom de celle qui était à droite, Jachin, et le nom de celle qui était à gauche, Boaz. Nous savons que les deux règnes de David et de Salomon revêtent deux aspects très distincts et n'ont pas d'intérêt. Nous savons par ailleurs que David nous parle du Seigneur comme roi rejeté, alors que Salomon, son fils, est l'évocation du roi de gloire. Et la parole nous fait connaître la mesure dans laquelle David aimait son Dieu et avait à cœur de bâtir une maison pour son Dieu. Mais nous savons quel était le caractère de la vie de David, dont l'attachement à son Dieu et la droiture en ont été les caractères, mais il n'a pas été exempt des quatre, mais il a su les juger. Mais il lui a été donné de pouvoir œuvrer en vue de l'édification de ce temple, qui alors n'est plus une demeure itinérante dans le désert, mais une habitation stable, contrairement donc au tabernacle. Et David nous est-il dit dans ce premier verset à tout préparer. Dans sa remarquable prière de 1 Chronique 29, il peut dire qu'il a fait ce travail de préparation dans toute sa force, dans toute son affection, dans toute son affliction. Quelle figure éloquente du divin bâtissement. Le Seigneur, pendant qu'il était sur la terre, a tout préparé. De toute sa force, dans l'affliction et par amour. Mais ce n'est pas lorsque le Seigneur était sur la terre encore, il lui a été donné d'édifier son assemblée. Il fallait qu'il soit élevé, il fallait qu'il soit glorifié. C'est la raison pour laquelle Dieu, sauvegardant toujours ses pensées à l'égard de Christ, nous déclare que David a tout préparé, il n'a pas édifié. Et pourtant, son désir comme roi aimant l'Éternel était ardent de bâtir cette maison. Mais il lui a été donné de pouvoir tout préparer, et à tel point que lorsqu'on bâtira, il n'y aura plus de bruit d'instruments de travail. Dans ces quelques versets de 2 Chroniques 3, nous avons le fondement moral et spirituel de la maison de Dieu. Et quelle est cette base spirituelle et morale? C'est Morija et Verdon. Morija. Le sacrifice d'Isaac, cette montagne sur laquelle Isaac et son père Abraham sont montés les deux ensemble. Si Isaac n'a pas été offert et mis à mort, Abraham l'a moralement offert, il l'a donné. Et c'est sous cet aspect-là que Dieu a répondu. Morija, le fondement en figure de l'œuvre de Christ. Et nous savons bien que même géographiquement, Morija, l'Erdonnant, le Calvaire, sont des lieux très proches. C'est dans la montagne de Morija qu'il a été pourvu. L'Erdonnant où David a offert le sacrifice, en raison de l'une des fautes importantes qu'il a commises, le dénombrement en l'occurrence, et qui l'a conduit à une grande détresse, mais dans sa confiance en son Dieu qui pouvait le restaurer, à se confier en lui et ne pas tomber entre les mains des hommes, sachant que les compassions divines sont très grandes, il lui est demandé de monter à l'Erdonnant pour offrir un sacrifice qui sera agréé et qui pourra conduire Dieu lui-même à ordonner à l'ange de remettre l'épée destructrice dans son fourreau. Dès lors, ce ne sera plus le tabernacle, mais ce ne sera plus à Gabaon qu'on montera pour l'Éternel, mais en ce lieu-là. C'est ici, dit-il, la maison de l'Éternel. David a tout préparé. Salomon va réaliser. Lorsque le Seigneur est élevé dans la gloire, nous le savons bien, par acte 2 qu'il envoie peu de jours après, le Saint-Esprit pour constituer cette assemblée, cette Église, sur la terre par ce seul baptême d'un seul Esprit, le corps de Christ. Prophétiquement, chacun sait que Salomon et son règne sont une figure du règne millénaire. Cette période future encore, qui succédera à la venue du Seigneur et à la réalisation et l'exécution des jugements apocalyptiques, et qui pendant 1000 ans, accordera à ceux qui auront reçu l'évangile du royaume, il n'y en aura aucun d'eux qui aura pu entendre l'évangile de la grâce, et qui subsisteront malgré les persécutions desquelles ils seront les objets, pourront entrer dans la jouissance des bénédictions millénaires. Prophétiquement, Salomon et son règne sont donc une évocation de ce temps-là. Mais n'avons-nous pas, dans ce fondement des deux premiers versets, Morija et l'Erdogan, la base de toute bénédiction qui puisse parvenir à l'homme dans tous les temps? Car si l'œuvre de Christ est ce point dans l'éternité vers lequel convergent toutes les pensées de Dieu, c'est aussi la seule source de laquelle résultent toutes les bénédictions qui parviennent à l'homme dans tous les temps. Si avant cette œuvre, des hommes ont été justifiés par la foi, c'est en vertu de l'œuvre de Christ. Le fondement est posé, verset 3. Pour bâtir cette maison de Dieu, il nous en est donné les dimensions d'après l'ancienne mesure. On peut même souligner cette expression d'après l'ancienne mesure. Dieu n'a pas deux mesures. Et si dans son conseil éternel, il a établi, fixé la mesure, spirituellement parlant, de ce qui se rapporte à notre rachat et aux bénédictions qui parviennent à l'homme, c'est selon cette même mesure que les choses trouvent leur réalisation. Nous nous arrêtons seulement sur le portique pour en souligner la hauteur qui est disproportionnée par rapport à la grandeur de la maison et à sa largeur, puisque il a 120 coudées de hauteur. 120 coudées de hauteur, alors qu'il est étroit, il est recouvert d'or. Et la hauteur de ce portique n'est-elle pas une expression qui est évoquée dans le psaume 24 en rapport avec le règne? Portez, levez vos têtes et le roi de gloire entrera. Nous y trouverons également la mention des deux colonnes, dont les noms sont chacun d'une part et Boaz d'autre part, et comme nous disent les notes en bas de page, la première signifiant « il établira, il affermira », et la seconde « en lui est la force, Boaz ». Remarquons que l'une est mentionnée au futur et l'autre au présent. S'il s'agit de l'établissement du règne, il est futur. Il établira, il affermira, car il faut que l'œuvre soit accomplie. S'il s'agit de la source, de la force ou de la puissance, elle est constante. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, que l'expression nous est donnée au présent. Si nous considérions la réalisation sous son aspect pratique, dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 6 et 7, fin du chapitre 6. Nous lisons au verset 37e du chapitre 6 du premier livre des rois. La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Pul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée. Dans toutes ses parties et selon toute l'ordonnance à son égard. Et Salomon l'a bâti en 7 ans. Et Salomon mit 13 ans à bâtir sa propre maison, et il acheva toute sa maison. Et il bâtit la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, et large de 50 coudées, et haute de 30 coudées, sur 4 grandes colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Verset 7. Et il fit le portique du trône où il jugeait, le portique de jugement. Et il était couvert de cèdre, de plancher à plancher. Et à la fin, un peu plus loin, et il fit sur le même plan que ce portique une maison pour la fille du pharaon que Salomon avait prise pour femme. Verset 10. Et les fondements étaient en pierre de prix, de grandes pierres, des pierres de 10 coudées et des pierres de 8 coudées. Et au-dessus, il y avait des pierres de prix, des pierres de taille, selon les mesures et du cèdre. Réalisation de cette maison, Salomon l'avait à cœur. David, nous le répétons, avait tout préparé. Salomon édifie. Il pose les fondements et démontre un zèle, un empressement particulier pour la réalisation de cette maison de Dieu, la maison de l'Éternel, qui est bâtie en 7 ans seulement. Elle est achevée. La maison de Dieu. Puis il y a la maison de Salomon lui-même. Cette maison, sa propre maison qu'il achève. Troisièmement, au verset 2 du chapitre 7, il y a la troisième maison, la maison de la forêt du Liban, où il y a le portique du trône, où il juge, le portique du lieu de jugement. Et quatrièmement, il y a la maison pour la fille du Pharaon, que Salomon avait prise pour femme à la fin du paragraphe. 4 maisons distinctes. La première, la maison de Dieu, qui est comme une évocation de la maison du Père. La deuxième, sa propre maison, la maison du Fils, son assemblée. Je bâtirai mon assemblée. C'est sa propre maison. Et il achève. Remarquons ces expressions si belles. Il bâtit sa propre maison, il l'achève. Troisièmement, il y a la maison de la forêt du Liban, qui est l'expression de la maison qui sera bâtie pendant le règne, et qui est particulière par le fait qu'elle a un grand nombre de colonnes de cèdre qui nous parlent de la gloire. Et c'est là qu'il a son jugement. C'est la maison du Fils de l'homme, pendant le règne. Et quatrièmement, la maison pour la fille de Pharaon, qu'il a prise pour femme, la relation de Christ sur son propre trône pendant le règne avec les nations, dont la fille du Pharaon est une expression. Chacun peut remarquer qu'il y a une grande différence entre la femme de Joseph et la femme de Salomon. Combien il est beau de voir ce zèle déployé pour bâtir ces maisons, à l'égard desquelles un accent particulier également est mis sur les fondements. Et le verset 10 est là pour le souligner, les fondements étaient en pierre de prix. De grandes pierres, des pierres de 10 coudées, des pierres de 8 coudées, et au-dessus, il y avait des pierres de prix. Avec le Seigneur dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Et à ce que Pierre lui-même nous dit dans son épître, la première, au chapitre 2. Lorsqu'il reprend en quelque sorte ce qui l'a appris avec le Seigneur lui-même, à savoir qu'il était lui-même le pierre de cet édifice de la grâce, mais que nous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, sommes édifiés une maison spirituelle. Le fondement, c'est Christ, nous le savons. Les fondements, les vérités divines se rattachant à sa personne et à son âme. Et sur ce fondement, d'autres pierres qui ont été tirées de la carrière de ce monde et amenées à la mesure que la grâce veut pour la satisfaction de son cœur. La mesure divine, elles sont taillées, elles sont posées sur le fondement, au-dessus, ce sont elles aussi des pierres de prix. Des pierres de prix. Si nous passions au livre d'Esdras, au chapitre 3, il faut peut-être rappeler que ce livre d'Esdras place devant nous les circonstances qui font suite à la déportation de Juda et Benjamin en Babylonie. Le gouvernement de Dieu frappe ses tribus comme il avait frappé 125 ans plus tôt les 10 tribus déportées en Assyrie. Et cela en cause en raison de l'infidélité, de la transgression, voire de l'idolâtrie du peuple terrestre de Dieu. Dieu avait averti avant cette déportation, il avait même donné la mesure, la longueur de cette déportation en Babylonie. Jérémie l'a connu, il en a été averti, et Daniel, comme Ézéchiel, l'ont traversé. Après les 70 ans de déportation, la grâce de Dieu réveille le peuple et réveille Cyrus, roi de Perse, qui prononce un décret autorisant tous ceux qui désiraient remonter à Jérusalem de pouvoir s'y rendre. Toutes ces choses étaient dans la pensée de Dieu. Cyrus, même s'il porte le nom de berger, c'est lui que la grâce de Dieu emploie au moment où il le veut, parce que la mesure du gouvernement est atteinte, 70 ans. Il correspond aux 70 années sabbatiques dont l'Éternel a dit frustré, pour qu'il puisse remonter au pays de la promesse. Moins de 58 personnes se mettent en route, quittent Babylone, ce qui nous laisse bien comprendre qu'une grande partie est restée en Babylone. Lorsqu'il y a un réveil produit par la pure grâce de Dieu, toutes les oreilles n'y sont pas attentives. Et nous sommes tels que nous pouvons nous accoutumer aux conséquences de nos inconséquences, au gouvernement de Dieu, à la discipline du Seigneur. Nous pouvons nous y accoutumer. Un grand nombre reste en Babylone. Pour eux, cet appel de la grâce de remonter en Palestine n'a pas trouvé l'écho, n'a pas trouvé le chemin de l'heure. Néanmoins, 50 000 environ remontent. Sous la conduite de Joshua et de Zorobabel, ces deux hommes de Dieu qui préfigurent la sacrificature et la royauté. Ils remontent. Mais au chapitre 3, nous lisons, « Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Joshua, fils de Jotsadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement. » Un peu plus loin, au verset 8, « Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Joshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem commencèrent. Et ils établirent les Lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus pour surveiller l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Alors Joshua et ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils et les fils de Juda se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu et aussi les fils de Henadad, leurs fils et leurs frères les Lévites. Et lorsque ceux qui baptisaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel en posant les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs, et d'entre les lévites, et d'entre les chefs, les pères, les vieillards, qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et le voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin. Jour de réveil, produit par la pure grâce de Dieu, accordant à ce résidu de retrouver le terrain de la bénédiction. Mais arrivant à Jérusalem, que trouve-t-il ? Des ruines. Des ruines qui témoignent des conséquences de leur infidélité. Mais le terrain est là. Que vont-ils faire ? S'unir dans une même pensée, comme un seul homme. Il y a un grand profit à rechercher ces expressions dans l'Ancien Testament, comme un seul homme, qui sont dans certaines circonstances, si vous laissons juge 21, l'expression du même sentiment, de la même pensée, de la commune. Comme un seul homme, ils sont ensemble désireux de retrouver la bénédiction perdue. en dépit des ruines. N'y a-t-il pas là un encouragement bien précieux pour nous? Nous sommes dans un temps de ruines. Le christianisme n'est-il pas devenu un vaste champ de ruines? Mais c'est dans ce champ de ruines que la colonne et le soutien de la vérité doivent être visibles. Ils sont là dans une même pensée pour rechercher le terrain, l'emplacement de l'autel. C'est l'image du culte, de l'adoration. Nous savons bien que le désir de l'ennemi est toujours, premièrement, de porter la main, de rendre irréalisable le culte, l'adoration. Il y est parvenu. Et dans la chrétienté professante aujourd'hui, y a-t-il le culte en esprit et en vérité? Nous comprenons que pour lui, c'est quelque chose d'insupportable que de célébrer la gloire et la victoire de celui qui est entré dans sa forteresse. Mais il faut rechercher premièrement ce terrain de l'autel. Car avant toute chose, Dieu cherche un peuple d'adorateurs. L'autel est détruit. La maison n'existe pas, elle n'est pas visible. Mais le terrain est dans le sens spirituel, cela est toujours valable. Le terrain est là. Et ils sont là. On va réédifier l'autel sur son emplacement et non pas ailleurs. Dans le paragraphe suivant, n'évoquons que quelques pensées d'ordre général. Il s'agit de poser les fondements pour réédifier la maison. Remarquons qu'il n'est jamais parlé d'une maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Il n'y en a qu'une. Du reste, il n'y en a jamais eu deux simultanément sur la terre. La réalisation diffère quant à la nature des relations. Bien sûr que le tabernacle n'est pas l'assemblée. Et le temple, ici, n'est pas non plus le temple millénaire, quant aux économies. Mais c'est toujours la maison de Dieu, réalisée dans son temps. Et maintenant, il faut en retrouver la réalité. Il faut poser les bases. Et là encore, au verset 9, il nous est dit pour la deuxième fois qu'ils sont unis comme un seul homme. Pourquoi? Pour surveiller. Et ce n'est pas une fois seulement, c'est plusieurs fois que nous trouvons ce verbe « surveiller ». S'il y a quelque chose qui est contraire à la nature humaine, c'est être surveillé. Mais combien il est beau de voir, et solennel tout à la fois, que dans un temps de petites choses, dans un temps de faiblesse, la surveillance est de mise. Elle s'impose. Car dans un temps de faiblesse, on est exposé à baisser les niveaux et peut-être à dire, au point où nous en sommes, la faiblesse nous a saisis, nous devons abaisser les exigences et nous ne pouvons pas être aussi près de ce qui a été institué qu'aux jours les plus heureux de l'Église. La parole ne parle jamais ainsi. Nous avons un Dieu qui porte le nom de le même. Celui qui n'a pas de variation, il n'y a pas de changement en lui. Et il demeure le même. Le Seigneur lui-même a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque nous évoquons ce verset, nous pensons peut-être plus particulièrement à sa fidélité, à sa grâce, à son secours, à sa bonté. Mais il demeure aussi le même en sainteté et en saint droit. Et dans un temps de petites choses, de faiblesse, il est le même qu'aux jours les plus heureux du livre des actes. Et c'est la raison pour laquelle la vigilance et la surveillance sont requises. Mais remarquons qu'il n'y a pas de divergence de pensée. Il n'y en a aucun qui dit « nous ne sommes pas d'accord ». Ils étaient comme un seul homme pour surveiller afin que les choses soient réalisées dans un temps de petites choses et de faiblesse, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse, et quant à la louange, comme il l'avait ordonné à David, homme de Dieu. Combien cela est précieux. Pourrions-nous douter de la permanence de l'enseignement divin? Ils sont là tous ensemble. Ils posent les fondements. Non pas d'autres fondements sur un autre terrain, mais sur le terrain de la maison, les fondements sont posés. Et nous assistons à la plus grande solennité qui se rattache à cette réédification de la maison, puisque les sacrificateurs sont là, vêtus de leurs vêtements, avec les cymbales, les trompettes, et tout se fait, on peut dire, avec solennité et respect. C'est si souvent ce qui nous manque aujourd'hui. En rapport avec la maison de Dieu, nous sommes, nous devons le confesser, si souvent superficiel. Et perdons de vue les saints droits divins et les droits de la seigneurie de Christ dans sa maison. Il n'abaisse jamais son niveau à cause de nos faiblesses, mais il nous donne toujours des ressources qui répondent aux besoins de la faiblesse. Et nous avons entendu que lorsqu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel, il y a des manifestations très différenciées. Les uns pleurent, les autres poussent des cris de joie. Il nous a dit les vieillards pleuraient, ceux qui avaient le souvenir de la beauté, de la grandeur, de la splendeur de ce temple de Salomon, et qui voyaient ces quelques pierres se poser sur un champ de ruines. Et les autres, par contraste, nous pouvons bien penser que si les premiers étaient les vieillards, les seconds étaient les plus jeunes, qui posent des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de Jérusalem. Ils ont entendu parler de la maison de Dieu lorsqu'ils étaient en Babylonie. Mais ils n'ont connu que la Babylonie. Et pour la première fois, ils arrivent sur le terrain de Dieu à Jérusalem. Pour la première fois, ils assistent à l'édification de la maison de Dieu. Ils poussent des cris de joie. Nous pensons aux jeunes et nous nous adressons à eux avec autant d'insistance que d'affection. Lorsque les vérités, les fondements relatifs à la réalisation de la maison de Dieu, de son assemblée, de son témoignage sont rappelés, sont évoqués, est-ce que cela produit de la lassitude, une fatigue, ou est-ce que vous posez, chers jeunes, vous poussez vous aussi dans vos cœurs des cris de joie? Dieu veuille que ce soit le cas. Dans l'évangile de Matthieu, le passage bien connu est déjà cité, le chapitre 16, ces seules paroles du Seigneur. Deuxième partie, où ils ont le verset 18e du chapitre 16. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur avait demandé quelle était l'appréciation que l'on donnait quant à lui-même. Et Pierre a eu une appréciation selon Dieu. Il a eu le discernement. Et le Seigneur de lui dire, moi aussi je te dis que tu es une pierre, comme la note le dit. Tu es déjà dans ma pensée une de ces pierres vivantes, un élément de l'édifice que je vais construire. Et sur ce roc, c'est-à-dire Christ lui-même, je bâtirai mon assemblée. Il y a peu de mots, mais il y a beaucoup de choses. C'est lui seul qui peut bâtir. Il est le seul divin bâtisseur. Il est le seul fondement. Ce sur-fondement dont parlait par anticipation le prophète Ésaïe. Et c'est ce qu'il est devenu, le Seigneur, par son œuvre, la maîtresse pierre de coin, l'auteur du salut éternel. Je bâtirai, c'est au futur. L'œuvre n'est pas accomplie, le Seigneur est encore parmi les siens, avec ses disciples sur la terre. Il va le faire, et ne pas bâtir, il la bâtira. C'est au futur, comme quand on dit aux mêmes disciples, il dira qu'il s'en va leur préparer une place. Elle n'était pas encore acquise. Maintenant l'édifice est bâti. Maintenant la place est acquise dans la maison du Père, pour ceux qui m'appartiennent. Mon assemblée, c'est la sienne. Mon assemblée. C'est sa propre maison, la maison du Fils que nous avons vue dans le livre des Rois. Je bâtirai mon assemblée. Et ce fondement, ce roc, cette véritable maison bâtie sur le roc, elle ne sera pas à l'abri des tempêtes, des vagues impétueuses qui s'abattront contre elle, qu'elles le font aujourd'hui. Nous en sentons toute la grandeur, toute la puissance. Mais nous sommes rassurés par la pensée que le Seigneur maintiendra son assemblée, maintiendra son témoignage, en dépit des assauts subtils, persévérants et puissants de l'ennemi. Même le domaine de la mort ne saurait l'abattre. Les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Dans l'épître de Pierre, dans le passage déjà cité, nous avons cette expression « Voici, je pose en Sion ». C'est le Seigneur qui le fait. Dieu lui-même nous a donné celui qui pouvait être le seul sûr fondement. Je pose en Sion, ce n'est plus sur le Sinaï, ce n'est plus sur la montagne qui condamne, mais sur la montagne de la grâce, en Sion, la maîtresse pierre de Brouin. Cette pierre élue dans les temps éternels, précieuse, choisie, selon le conseil de Dieu, aucun ange ne pouvait accomplir cette œuvre. Le Seigneur seul pouvait dire déjà par l'esprit prophétique, voici je viens. Il est devenu cette pierre angulaire, ce roc, sur lequel repose son assemblée. Cette maison de laquelle nous faisons partie intégrante, selon l'expression bien connue d'Éphésiens 2, où il nous est parlé de l'habitation de Dieu par l'Esprit, et qui est édifiée sur le roc, Christ lui-même, et sur le fondement des apôtres, ajoute Paul, en évoquant ces ouvriers que le Seigneur a employés en son temps pour être à l'origine de la réalisation pratique de cette demeure de Dieu au sein des cieux, son assemblée. L'apôtre Paul, qui a œuvré d'une manière si particulière, qui a reçu l'extraordinaire des révélations concernant l'assemblée qui nous ont fait connaître les caractères et la marche, peut dire dans sa première épître aux Corinthiens et au chapitre 3, au verset 9e, car nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste. Car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même sera sauvé, toutefois comme au travers du feu. Nous sommes collaborateurs de Dieu, nous sommes le labourage de Dieu. Quelle grâce, quelle condescendance, quel honneur Dieu nous accorde en nous qualifiant de ce titre lié à des fonctions d'amour pour lui et ses collaborateurs. Mais le fondement, c'est lui. Et l'apôtre qui a travaillé comme un sage architecte qui édifie peut dire qu'il n'y a pas d'autre fondement que celui qui est maintenant posé. Il est au-delà de l'œuvre. Il l'est posé. Et maintenant, c'est l'édification sur le fondement. D'où les mises en garde à l'égard de ces deux catégories d'ouvriers. Les uns posant sur le fondement des choses qui résistent à l'épreuve du feu, car n'oublions pas que même pendant le temps de la grâce, puisque nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, notre Dieu est un feu consumant. Nous perdons peut-être de vue la grandeur du Dieu, du Seigneur auquel nous appartenons, et le nom de celui duquel nous nous réclamons, le grand Dieu des cieux, le Seigneur de toute la terre. Il a des droits. Sa grâce n'enlève rien à toute la majesté divine et au Saint-Droit divin. Mais il nous accorde d'être nous, qui étions par nature des enfants de colère comme aussi les autres, d'être des éléments de cet édifice de la grâce. Et sur le fondement posé, pour lequel et sur lequel les apôtres ont œuvré d'une manière particulière, d'où se rappelle le fondement des apôtres, qu'apportons-nous sur le fondement? De l'or, justice divine, de l'argent, Christ, son œuvre, la rédemption connue par la parole, les pierres précieuses, les gloires de Christ, tout cela supporte la sainteté consumante de Dieu et n'en seront rendus que plus éclatants par le feu. Le bois, le foin de chaume, cela fait beaucoup d'effet. On le voit de loin. Ça peut frapper le regard. Mais quant à l'appréciation divine, il n'en reste que des cendres. Toutefois, ceux qui œuvrent, même en apportant du bois, du foin, du chaume, le faisant en tant que rachetés du Seigneur, travaillant sur le fondement, ils sont quant à eux-mêmes sauvés, comme au travers du feu. Mais de leur activité, il ne reste rien. Ce sont des déclarations sans embâche, combien solennelles, qui concernent l'actualité. Nous parlons par la troisième catégorie de ceux qui troublent, de ceux qui apportent des éléments perturbateurs qui détruisent. Et nous en connaissons l'aboutissement. Terminons par deux seuls passages dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 21. Ce chapitre plaçant devant nous une description figurée, bien sûr, de la partie céleste du royaume millénaire, du règne millénaire, c'est-à-dire l'assemblée dans le ciel pendant le règne millénaire. Et dans ces expressions, nous lisons seulement deux versets, le verset 14. La muraille de la cité avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 19. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Nous sommes au-delà de la scène d'ici-bas de ce monde. Nous sommes occupés par cette révélation que Jean nous donne des caractères spirituels. La grâce de Dieu, Dieu venant à la rencontre de nos esprits limités pour nous faire comprendre quelque chose par ces images et nous montrer que même dans le ciel, les fondements restent encore. Et il y a le rappel de ceux qui ont été d'une manière particulière ses collaborateurs à l'origine de la réalisation de l'Assemblée, les apôtres. Les fondements de la muraille de la cité porte sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau, les apôtres de celui qui s'est livré lui-même, l'agneau de Dieu qui a réglé la question du péché. Et au verset 19, ces fondements de cette même muraille, de cette même cité, sont ornés de toutes pierres précieuses, les gloires de Christ qui seront vues par tous ceux qui l'entoureront. C'est la conclusion que nous donne le Saint-Esprit, en rapport avec ce thème si éloquent, si précieux, si beau, des fondements qui occupent une place particulière dans les pensées de Dieu en rapport avec sa maison. De toute éternité, Christ est le fondement. Pendant qu'elle se réalise au cours des économies sur la terre, il en demeure le fondement. Et ces fondements sont portés dans la gloire, comme en témoignent ces versets, et font briller en quelque sorte à la gloire de celui qui est l'auteur du salut éternel et le divin créateur de la nouvelle création du premier-né, comme aussi celui qui sera l'objet de contemplation et d'adoration éternelle des saints glorifiés. Il nous dit que cette muraille est ornée de pierres précieuses. Ces pierres déjà mentionnées en Ézéchiel 28 en rapport avec la création. Ces pierres qui brillent déjà à la lumière du chandelier dans le lieu très saint, lorsqu'elles sont vues sur le pectoral du souverain sacrificateur. Ces pierres qui ornent maintenant la muraille de la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui sera illuminée de la gloire même de l'agneau. Que ces choses soient précieuses et nous conduisent à apprécier toujours plus, par des affections toujours plus liées, profondément engagées, pour celui qui nous procure de telles bénédictions qui nous acquise au prix de sa vie. terminer un passage dans la première épître de Pierre. Au chapitre 5 de la première épître, nous lisons le verset 10e et 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus. Lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.